RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous et content de vous retrouver pour discuter, pour débattre en direct sur RMC, RMC Story, pour les GG, pour les grandes gueules. On vous attend bien sûr au 32-16 pour venir commenter tout ce qui fait notre beau pays, ce qui fait l'actualité, ce qui fait société. Avec nous aujourd'hui, Zora Bitant, cadre de la fonction publique. Bonjour ma chère Zora.
Bonjour à tous.
Nous sommes avec le docteur Jérôme Marty, un homme en colère. Fais-les tout le temps en colère, Jérôme. Bonjour docteur Marty.
C'est presque une profession.
Ouais, oui, c'est ouais. Ça, c'est ça. Bonne raison encore d'être en colère contre les pouvoirs publics, mais on l'évoquera tout à l'heure dans le « On s'en fout, on s'en fout pas ». Et puis nous sommes avec Jean-Loup Bonamy, qui est professeur de philosophie. Bonjour mon cher Jean-Loup.
Bonjour.
Et de la philosophie, il en faut en ce moment là aussi, pour pouvoir supporter la tension du quotidien. Le stoïcisme, c'est une philosophie
Tout à fait. Je vais bientôt faire ça avec mes élèves.
Alors comment est-ce qu'on devient stoïque? Comment est-ce qu'on arrive à faire face aux élèves et à la tension du moment?
En gardant son sang-froid,
en restant stoïque.
Oui, alors devenir stoïque, c'est plus compliqué.
Une bonne recette?
Si tu veux, il y a un philosophe de l'Antiquité, il s'appelait Épictète. Il était esclave. Et puis un jour, il est accusé à tort d'un vol qu'il a... C'est le maître du stoïcisme. Et un jour, il est accusé à tort d'un vol qu'il n'a pas commis. Et donc, son maître, lui, pour le faire avouer, lui met la jambe dans un étau. Et là, Épictète le regarde et lui dit « Tu vas me briser la jambe ». Et tout d'un coup, bam, sa jambe craque net. Et Épictète le regarde stoïquement et écrase une petite goutte de sueur et lui dit « Je te l'avais bien dit ». Alors, tu vois, avant d'en arriver à ce niveau-là de stoïcisme, il va falloir un petit peu d'entraînement.
Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules? Des prix des carburants qui sont au plus haut. Alors, est-ce qu'on fait avec ou est-ce qu'on attend un nouveau chèque? On vous fera réécouter ce que disait Bruno Le Maire.
Ah non, là, cette fois-ci, c'est...
Oui, je sais que ça va être plus compliqué.
Ah, oui.
Mais Bruno Le Maire a dit, même Bruno Le Maire qui aujourd'hui demande des économies, avait dit il y a quelques semaines, quelques mois... Il avait dit quand ça approchera les 2 euros, on saura faire ce qu'il faut pour aider les automobilistes.
Oui.
Donc ça, c'est tout à l'heure à 10h qu'on en discutera. D'ici là, dans la première heure des GG, vous allez voir, on va avoir matière à discussion. On va parler violence chez les jeunes et excuses de minorité.
RMC, les grandes gueules.
Parce que le débat est relancé, malheureusement, avec les deux tragédies que l'on a connues ces derniers jours. Samara à Montpellier et Semchedine à Viry-Châtillon. Sans parler, on se souvient des affrontements avec la police régulièrement ou des dernières émeutes l'été dernier. Pourquoi le débat est relancé sur la fin de l'excuse de minorité? Quand on regarde ceux qui ont agressé Semchedine ou ceux qui ont agressé aussi Samara. En fait, l'excuse de minorité, elle est définie par l'article 122.8 du Code pénal. Elle permet d'atténuer la responsabilité des mineurs incriminés par la justice. C'est ce qui permet de les différencier, bien sûr, des adultes. François-Xavier Bellamy, entre autres, Xavier Bertrand aussi, tous les deux membres du parti Les Républicains, demandent à ce qu'on sorte de l'excuse de minorité, parce que pour eux, elle signifie impunité, puisqu'on cherche toujours à minorer la peine. En fait, on se dit, le mineur, la prison, si on peut l'éviter, tant mieux. Et puis en plus, si peine de prison il doit y avoir, il faut qu'elle soit le plus courte possible. Donc il dit, ça veut dire impunité pour ces mineurs. Il sait qu'il ne lui arrivera rien tant qu'il transgresse, couvert par le fait qu'il est encore loin de sa majorité. Alors, est-ce qu'on doit sortir de l'excuse de minorité? Oui ou non? La dernière demande en date, ça avait été lors du procès du meurtrier de Shaina. Vous vous souvenez de Shaina?
Oui, je me souviens.
15 ans, elle avait été poignardée et brûlée vive, on était en 2019. L'auteur avait 17 ans au moment des faits. On avait demandé à ce que l'excuse de minorité soit levée, ce qui permettait de porter la peine de 20 à 30 ans, mais la cour avait refusé. Alors, est-ce que face à la délinquance et la violence des mineurs, on lève l'excuse de minorité? Oui ou non? Le débat est lancé dans les GG, dans les grandes gueules. Avec vous au 32-16, Zora, qu'est-ce que tu en dis?
J'allais dire, je ne pense pas que les jeunes soient dissuadés par les peines et par ce qu'ils encourent. Je pense que aujourd'hui, on a un gros déficit de sanctions dès le premier acte de délinquance. Et ça commence comme ça. Si on veut sauver ces jeunes, si on veut éviter qu'ils aient justement un parcours de délinquants qui monte crescendo au fur et à mesure de l'âge, il faut commencer à punir dès le premier acte de délinquance. Parce que punir...
Aujourd'hui, on retrouve des gamins de 11-12 ans participant à des trafics ou des actes
de violence. Ce que les gens comprennent pas, et nos pouvoirs publics non plus, c'est que punir, c'est protéger. à la fois le jeune de son avenir et de ce qu'il pourrait faire à l'avenir, c'est protéger, c'est rendre service aux parents et c'est protéger la société. Donc moi, je veux bien qu'on retire l'excuse de minorité, ok, pourquoi pas, c'est une petite goutte d'eau dans la question de la prévention et de la sanction, mais la première sanction, c'est de ne plus se retrouver avec des jeunes qui en sont à leur 10e, 12e, 14e, 15e délit devant des magistrats et qu'à chaque fois, il ne se passe rien. En fait, il y a toute une chaîne éducative qui passe des parents en passant par l'école, le périscolaire, etc. Et je pense que c'est bénéfique de punir dès le premier acte de délinquance, fût-il mineur, fût-il pas très grave, au contraire. Sauf qu'on le fait pas. En fait, on est dans une vaste hypocrisie depuis super longtemps, puisqu'on parle de China où l'excuse de minorité avait été demandée, mais n'oublions pas Soane à Vitry-sur-Seine, brûlée dans un cagibi de poubelle il y a à peu près 20 ans de ça, même moins que ça. Des faits comme ça, on en a combien ? On en a tout le temps. Et en fait, à chaque fois, on a des politiques qui ne sont absolument pas à la hauteur, qui sortent tous un petit peu une carte pour exister, avec aucune considération sur l'ensemble du système de la délinquance des jeunes. Ils excluent totalement les acteurs locaux de l'éducation. Il n'y a pas de grand plan de réflexion qui passe par la justice, la police, etc. Et on en est à des choses. Ça servira à rien. Pour moi, ça servira à rien.
C'est beaucoup plus en amont qu'il faut
complètement
travailler. Jean-Loup Bonamy.
Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit. C'est-à-dire que ma position, c'est que la suppression de l'excuse de minorité, que je demande depuis longtemps.
Ah, tu la demandes quand même?
Ah, ouais, depuis plusieurs années.
Tu la demandes. Pourquoi?
C'est-à-dire que ça me paraît nécessaire et indispensable.
Je suis complètement pour.
Pas suffisant. Si t'attends que le crime soit commis, c'est exactement ce que disait Zora. Là, j'ai rien à rajouter. Mais c'est-à-dire que pour moi, il y a plusieurs leviers sur lesquels il faut agir. Excuse-moi, le premier sur lequel il faut agir, et on le répétera à chaque fois, c'est l'immigration. Tu vois bien qu'il y a un problème et on n'arrive pas à s'occuper de ceux qui sont déjà là. Donc tant que tu n'arrives pas à t'occuper de ceux qui sont déjà là, ce n'est pas la peine d'en laisser entrer de nouveaux. Donc tant que tu n'agis pas sur ce levier, tu auras des problèmes. C'est le premier levier, c'est ça l'évidence. C'est d'ailleurs ce que tout le monde voit, c'est l'éléphant au milieu de la pièce et que personne n'ose dire alors que tout le monde le sait très bien. Bon, ça c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est en effet d'abolir pour les violences aux personnes. Moi, je suis pas forcément pour la suppression de l'excuse de minorité pour des affaires de vol ou de trafic de drogue, mais en tout cas, je suis pour la suppression
C'est bizarre, pourquoi?
Le vrai problème, c'est les violences aux personnes. Et parce que le dégât sur les victimes.
Qui se sont multipliés par.
Voilà, et exactement. C'est ça le nœud du problème. Quand les gens parlent d'insécurité, c'est de ça dont ils parlent. Et là, les victimes dont on parle, c'est-à-dire que par exemple, pour le jeune qui a été tué à Vitry-Châtillon, le dégât, il est permanent et irrémédiable, puisqu'il est décédé. Pour sa famille, la perte, elle est irrémédiable. Donc, à partir du moment où, pour les victimes, que tu sois tué par un mineur de 16 ans ou par un majeur de 50 ans, le dégât elle-même, il est normal que la peine soit la même dans les cas de violence aux personnes, c'est
ça. Donc il faut des peines comme pour les adultes aussi.
Des adultes parce que le dégât elle-même, et ça a quand même un effet dissuasif. Et enfin, là où Zora a totalement raison, c'est que si tu fais ça, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Si en parallèle, tu ne construis pas les peines de prison, si tu attends que le délit très grave ou le crime soit commis sans sanctionner dès la première infraction, ce qu'il faut, c'est que ces jeunes qui ont commis ces délits ou ces crimes, ils avaient déjà un passé et un passif de violence pour lequel ils n'ont pas été sanctionnés ou insuffisamment sanctionnés. Ils ont développé un sentiment progressif d'impunité et aujourd'hui on en arrive là. Et ça a été très bien mis en évidence par des gens qui travaillent avec ces jeunes-là, comme le pédopsychiatre Maurice Berger. Ils te disent, si tu ne sanctionnes pas sur les petits actes de violence, il y a forcément, ça va croissant.
Non, mais vous oubliez, il y a plein d'autres paramètres. D'abord, souvent, c'est des...
Tu es contre la levée de cette excuse de minorité? Parce que
je suis contre toute réaction sur l'émotionnel, quoi. Je veux dire, c'est du... On fait du bruit, on fait du médiatique, c'est les politiques secouent du vent un peu en disant allez on va supprimer ça, etc.
Jérôme, l'émotionnel, c'est une jeune fille qui a été tabassée, envoyée à l'hôpital.
Dire cela, ce n'est pas excuser le drame. Ce que je veux dire, c'est que qu'on commence par appliquer la loi, quoi.
C'est ça.
Les lois, elles sont pas appliquées. Elles sont pas appliquées. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est pas appliqué. C'est-à-dire que les peines, même si, avec l'excuse de minorité, tu as une limitation à la moitié de la peine encourue par un adulte, mais cette moitié de la peine, elle est pas appliquée. Donc, de toute façon, tout ça est une vaste fumisterie, quoi. Qu'on commence par appliquer la loi, qu'on commence par sanctionner très fortement ceux qui exploitent les mineurs. Tu parlais tout à l'heure d'enfants de 11 ans, oui. 12 ans.
La juge Béatrice Lugère nous avait dit ici que 42% des petites peines n'étaient pas.
À qui on fait faire le guet dans les banlieues où on vend de la drogue, etc. Qu'on commence par, je te dis, sanctionner très fortement les gens qui exploitent les enfants. Qu'on commence par sanctionner très fortement les parents qui laissent leur gosse faire n'importe quoi. Ça passe par là. Mais la suppression de l'excuse de minorité, tu t'arrêtes.
Ça n'existe pas.
Tu t'arrêtes.
Non, ça n'existe pas pour les mineurs. Les parents sont civilement responsables, c'est-à-dire qu'ils doivent réparer les dommages. Mais c'est pas aux parents. Mais il faut pas eux qu'on donne une peine de prison.
Il faut peut-être changer la loi pour ça.
Mais
tu t'arrêtes. Mais dans la suppression de l'excuse de minorité, tu t'arrêtes à quel âge? Tu supprimes jusqu'à 13, 16 ans, 18, 17 ans.
13, c'est en dessous de 13 ans, mais la vraie question, c'est demander.
Phénomène de bande.
La question, c'est demander, aller regarder comment en France, les structures d'éducation, les éducateurs, comment tout le paramètre de la prévention, est mis à mal dans notre pays. Les centres éducatifs fermés, il n'y en a plus. Il y a une vingtaine de structures, c'est les EPID. Les EPID, ce sont des internats.
Centre éducatif fermé, il y en a. Attends, centre éducatif, tu sais combien il y en a en France?
Oui.
Vous savez combien il y en a en France, centre éducatif fermé?
Ouais,
qui nous suivait, qui faisait que 50.
Oui, non mais
c'est ridicule, voilà, 50. Mais oui. Et les EPID, tu es venu avec des jeunes l'autre jour.
Voilà, les EPID, il y en a une vingtaine. Alors on crée des dispositifs qui coûtent un pognon de dingue et on n'investit pas dans l'éducatif. C'est-à-dire qu'un gosse de 12 ans, si un magistrat considère que ce gosse-là doit être puni, il doit se retourner et trouver la structure. Parce qu'on tape sur les magistrats que je vais pas défendre, mais n'empêche que quand t'es magistrat et que tu as une ribambelle de mineurs qui déboulent tous les jours pour des délits, qu'est-ce que tu as comme dispositif quand tu te retournes? T'as pas d'éducateur spécialisé, t'as pas de structure d'éducation, t'as pas de centre éducatif fermé. Toute la chaîne de prévention, elle est mise à mal. Donc le magistrat, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il fait ce qu'il peut, il renvoie le jeune dans sa famille, et puis il se passe plus rien. Donc il faut aussi donner les moyens et donner des outils à ceux qui veulent punir. Tu vas pas mettre un môme de 12 ans à Fleury-Mérogis parce que il a mis une claque à son copain.
Alors attends. Justement,
à un moment donné, il faut des structures.
On a un éducateur judiciaire avec nous. On a un éducateur judiciaire avec nous, Nicolas. Bonjour, Nicolas.
Bonjour à tous.
Bonjour. Justement, on est en plein dans le débat avec vous. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il faut en finir avec l'excuse de minorité?
Alors déjà, je suis heureux de vous parler. Merci à Zora et Jérôme parce que moi, je suis complètement d'accord avec eux. Alors moi, je suis dans le quotidien. Je suis des délinquants toute l'année en fait. Et en fait, on est vraiment en difficulté. On n'a plus assez de moyens pour faire la primauté de l'éducatif. En fait, c'est quand même inscrit dans la Constitution française. C'est-à-dire que l'excuse de minorité, il faut pas oublier qu'elle est liée au discernement, à une analyse réfléchie du développement d'un enfant. C'est-à-dire que effectivement, on peut répondre à l'émotion de l'État aujourd'hui, faire du politique et dire bon ok, on descend les sujets de minorité, donc dans 10 ans on se posera la question si à 9 ans ou 8 ans un enfant il est discernant et après on peut descendre encore, enfin voilà.
Nicolas, la délinquance elle est descendue aujourd'hui, on l'a vu dans les émeutes avec des gamins qui n'hésitaient pas à aller s'affronter.
C'est intéressant dans le discours de l'éducateur, là en quelques minutes on a déjà oublié les victimes, on est passé au
Mais bien entendu qu'en fait, si la sanction ne sert à rien, s'il n'y a pas d'éducatif, et on ne peut pas travailler l'empathie de l'adolescent et de l'enfant, On peut pas travailler l'empathie. Alors, bien sûr que nous, sur notre pratique éducative au quotidien, on travaille avec l'empathie, on travaille avec la victime, on travaille sur les répercussions du non-respect de la loi, de l'infraction à la loi. Mais on travaille là-dessus. C'est le discours éducatif, il est obligatoirement, il intègre la victime, il intègre le statut de la victime qu'on pourrait être. C'est ça la dimension empathique et éducative d'un accompagnement. En fait, c'est ça. Mais pour ça, il faut des moyens. C'est-à-dire, Zora, elle a raison. C'est-à-dire, si il y a pas, on gère pas le premier passage à l'acte, on appelle ça un primo délinquant. Si le primo délinquant sur le premier délit, il y a pas un accompagnement au départ, c'est très compliqué. Et après, je voulais juste préciser quand même qu'en France, on a une réponse pénale sur les mineurs qui est beaucoup plus importante que pour les majeurs. J'ai pas les chiffres parce que mais en tout cas, je sais que la réponse judiciaire, elle est beaucoup plus réactive pour les mineurs que pour les majeurs. C'est une réalité.
Puisque Nicolas, vous parlez des mineurs, dernier chiffre qu'on ait, 187 000 mineurs ont été traités par ce qu'on appelle les parquets. Ça fait 2,8% de la population qui est âgée de 10 à 17 ans. Parmi eux, surtout des garçons. Et dans ces cas-là, ce qui est recommandé, et ça c'est sur le site du ministère de la Justice, un mineur peut être condamné à une peine d'emprisonnement à partir de 13 ans. Cette peine intervient toujours en dernier recours.
Mais oui.
Et elle doit être aussi brève que possible.
J'ai juste une question. Pour les assassins de Viry-Châtillon qui ont quand même tué quelqu'un,
ils sont mis en examen pour assassinat.
Que diriez-vous de les enfermer pour une perpétuité réelle et de jeter la clé, parce qu'ils ont quand même commis un meurtre? Voilà une solution.
Allez, on continue d'en discuter dans un instant avec
Prison, jeter la clé.
Avec Zora, avec Jean-Loup et avec Jérôme. À tout de suite.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. On parle de l'excuse de minorité quand on voit la violence chez les jeunes. Est-ce qu'il faut en terminer avec l'excuse de minorité? Et c'est-à-dire qu'ils aient des peines comme les autres, en fait, qu'ils ne soient pas, que cette peine ne soit pas atténuée au nom de cette excuse légale, hein. C'est un dispositif législatif, dispositif légal, au nom de cette excuse minorité. Je suis pour qu'on la lève. C'est ce que disait Jean-Loup Bonamy. Nous a expliqué
même si ce n'est pas suffisant.
Notre prof de philo, Jérôme Marty et Zora Bitton sont contre. C'est pas le nœud du problème. C'est ce qu'ils disent. On va revenir dans un sens.
D'accord que c'est pas le nœud du problème, mais il faut quand même le faire.
On va en parler déjà avec un professionnel, c'est-à-dire avec Maître Dylan Slama qui est avec nous, avocat pénaliste. Bonjour, Maître Slama.
Bonjour à tous.
Alors, est-ce qu'il faut lever cette excuse de minorité comme le demandent certains responsables politiques alors?
Mais alors, vous savez qu'il n'y a pas besoin de passer par la loi pour lever l'excuse de minorité. Et l'excuse de minorité, on peut la lever au cas par cas, au tribunal, devant une cour d'assises.
C'est quelque chose
qui est déjà arrivé. Ça arrive rarement, c'est vrai, mais si vous voulez, la cour d'assises, c'est quoi le principe? Le principe, c'est qu'il y a des jurés qui sont tirés au sort et que la justice se rend au nom du peuple français. Ça veut dire que si jamais il y a des individus, des citoyens, donc représentatifs du peuple français, qui décident au cas par cas de se dire « Non, là, c'est vraiment trop grave, il faut lever l'excuse de minorité », c'est absolument possible dès aujourd'hui, si vous voulez. On n'a pas besoin d'attendre un changement législatif et donc un changement politique pour le faire. Donc, changer la loi, si vous voulez, ne changera pas grand-chose, puisqu'il est déjà possible aujourd'hui de lever des excuses de minorité.
Mais c'est rarement fait.
Voilà, c'est que ceux qui assistent au procès et qui suivent un procès et un accusé pendant 5 jours de suite et l'écoute avec attention, suivent les expertises psychologiques, suivent les expertises psychiatriques, décident de ne pas le faire, si vous voulez. En fait, ce que vous proposez, ou ceux qui proposent de lever l'excuse par principe de minorité, en fait, ils décident d'aller à l'encontre de ce que souhaitent les citoyens tirés au sort lorsqu'ils décident au sein des juridictions d'assises. Et moi, je pense que ça signifie une chose, ça signifie que lorsqu'on assiste à un procès d'assises pendant quand même assez longtemps, et je rappelle que ce sont encore une fois des citoyens tirés au sort et pas des magistrats déconnectés ou laxistes ou je ne sais quoi, ce sont des citoyens tirés au sort, ça montre que ceux qui suivent attentivement un procès savent très bien qu'en vérité, l'excuse de minorité a un sens.
Sauf
mais si jamais ils estimaient qu'elle n'en avait pas, ils pourraient la lever, je le rappelle.
Sauf qu'aujourd'hui, on a une délinquance des mineurs où on voit qu'ils sont de plus en plus jeunes et ça va pas aux assises, ça va en correctionnel. Et c'est aujourd'hui qu'est le problème, Dylan Slama, Maître Slama.
Je sors d'un procès de 3 semaines pour une rixe mortelle à Paris. Si vous voulez, c'est une bande de vendeurs qui se sont affrontés. Hélas, malheureusement, à la fin, il y a eu un décès et je sors de 3 semaines d'assises. Ça va tous les jours dans des procès d'assises.
Quand il y a une personne qui meurt, ça paraît logique. Mais sur la violence telle qu'on la voit aujourd'hui, urbaine, dégradation, multirécidiviste, comme le disent aussi les policiers, là, ça va plutôt en correctionnel.
Alors, lorsqu'on est multirécidiviste, au bout d'un moment, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'infractions. Au bout d'un moment, on finit par les atteindre, les 18 ans. Et je vais vous dire, de toute façon, si on est multirécidiviste, excuse de minorité ou pas excuse de minorité, on finit par prendre des peines.
Mais avouez, maître, qu'il y a quand même un problème. Regardez ce que vous dites. Vous dites, quand on arrive à 18 ans, Il n'y a plus l'excuse de minorité. Ça veut dire qu'entre, admettons, 12 et 18 ans, il ne s'est absolument rien passé.
Je vous rappelle une chose sur l'excuse de minorité. L'excuse de minorité, c'est pas l'absence de peine, c'est pas l'absence de sanction.
Non, mais on sait bien.
Avec l'excuse de minorité, on peut prendre des peines fermes qui sont extrêmement lourdes. C'est juste que le maximum de la peine encourue n'est plus le même. Mais si vous voulez, si le maximum de la peine encourue pour violence à réunion ou une infraction est par exemple de 10 ans, la peine encourue maximum, elle est divisée par 2, ça devient 5 ans. 5 ans ferme lorsqu'on a 16 ans, ça reste quand même une peine qui est très lourde et qui peut être appliquée.
Oui, qui peut être appliquée. Donc déjà, vous dites qu'elle ne l'est pas.
Mais oui.
Voilà. Elle ne l'est pas toujours.
Mais alors, la vraie question, y compris avec l'excuse de minorité, il est assez rare que les tribunaux aillent au maximum de la peine encourue. Ne pas retenir l'excuse de minorité, finalement, ne changerait pas grand-chose. Puisque aujourd'hui même, avec l'excuse de minorité, il est assez rare qu'on aille au maximum.
Oui, mais là, on est au bout du processus. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que met la société en œuvre justement pour que ces jeunes, on les voit pas entre 12 et 18 ans venir je ne sais combien de fois au tribunal pour des délits tous parfois presque de violence, de dégradation, de délinquance, etc. Et en fait, on attend gentiment à 18 ans jusqu'au drame. Donc il est là notre problème, c'est qu'il n'y a pas de sanction.
La prison pour mineurs de Fleury-Mérogis, que je fréquente assez régulièrement, elle est fournie. Il y a beaucoup de mineurs.
Mais on ne veut pas qu'ils aillent en prison. On veut qu'il y ait de la sanction éducative dès le premier acte de délinquance.
La sanction éducative, on peut la critiquer, mais elle existe aussi. Tous les jours, moi, je côtoie beaucoup d'éducateurs, de services d'insertion et de probation, qui sont très mobilisés. Alors, moi, je n'ai pas de baguette magique. Je ne peux pas vous dire quelle est la solution miracle. Mais vous me dites que vous ne voulez pas de prison et vous me dites qu'il faut plus d'éducation. Donc, excusez-moi, mais lever l'excuse de minorité, c'est au contraire solliciter de la prison. C'est de la prison et rien d'autre. C'est de la
réponse. Merci, maître Slama. Merci d'avoir pris quelques instants pour nous. Merci beaucoup,
plaisir.
Avocat pénaliste Dylan Slama. Merci. Tout à l'heure, tu as fait bondir en disant, dans cette histoire, on se préoccupe beaucoup des auteurs des agressions ou autres et pas assez des victimes, Jean-Loup Bonhomme.
Je vais commencer par une anecdote. Tu te souviens quand il y a eu les attentats du Bataclan? À cette occasion, on a découvert un personnage assez folklorique qui était le dénommé Jawad, tu sais, l'hébergeur des terroristes. Et en fait, quand on regarde le parcours de notre ami Jawad, on découvre déjà, alors qu'il était mineur, il a tué, c'est quand même un meurtrier, hein, il a tué l'un de ses amis à coups de hachoir pour une histoire de téléphone. Et en fait, grâce à l'excuse de minorité, alors qu'il était l'auteur d'un homicide volontaire particulièrement sordide, en fait, il n'a purgé que quelques années de prison pour meurtre. Alors, et voilà, il y avait réellement eu meurtre. Et après, une fois qu'il est ressorti, il a recommis toute une série d'autres actes de délinquance. Alors, tu vois, je fais peut-être bondir quand on dit que Jawad, on aurait dû le mettre en prison et pour meurtre, alors qu'il était mineur, et jeter la clé et peut-être le laisser sortir 30 ans plus tard, à l'âge de 45 ans, ça aurait peut-être été une meilleure idée pour la société française dans la nature. Et enfin, je termine, on se préoccupe pas assez des victimes, puisque je vois que tout de suite, avec l'éducateur qu'on avait eu précédemment, on évacue la victime pour dire « Oh, le pauvre mineur délinquant de 12 ans !»
Mais qu'est-ce que c'est que ce populisme ?
Non, mais il y a une forme. Il y a une forme. Tu vois,
attends.
Tu me parlais de philosophie. À mon avis, c'est une forme de rousseauisme. Tu as la théorie de Jean-Jacques Rousseau qui veut que l'homme est naturellement bon. Cette théorie aujourd'hui, elle infuse dans les mentalités à propos des enfants. Le mineur serait naturellement bon, donc il faudrait dans l'éducatif.
Faut arrêter l'onanisme au moment. Surtout quand tu parles de l'auditeur que l'on a eu,
Nicolas,
qui s'occupe d'un centre éducatif fermé. Hein, tu sais pas ce qu'ils vivent, ces gens, quoi.
L'émotionnel.
Non, je suis pas dans l'émotionnel.
T'es dans l'émotionnel.
Il se trouve qu'un ami à moi s'en occupe aussi, et que je sais ce qu'ils vivent, et je sais les difficultés qu'ils rencontrent, et je sais aussi que quand ils peuvent eux se retrouver devant un tribunal, parce que la nation française qui joue sur l'émotionnel là et qui nous dit on va baisser le seuil de minorité et tout, les laisse faire sans les financer, les laisse dans leur merde. Et quand ils se rebellent contre un mineur qui les agresse, c'est eux qui se retrouvent au tribunal. Donc ne va pas me dire qu'on fait de la flûte et qu'on défend uniquement les gens qu'on pense pas aux victimes. C'est de la connerie, ça. Excuse-moi, c'est de la connerie. Mais le reste, quand tu dis on les enferme et on jette la clé, mais tu nies simplement les cours d'assises, comme nous l'a rappelé l'avocat. Les cours d'assises, c'est des gens tirés au sort qui vont dire si la personne est coupable, pas coupable, si on lui donne perpétuité, si on lui donne pas perpétuité. Alors à ce moment-là, tu écartes les jurys et puis on fait des tribunaux populaires. C'est ça que tu veux ? Qu'on en revienne à ça ? Parce que c'est ça que tu es en train de nous décrire, quand même.
Eh ben, continuons à compter les morts.
C'est-à-dire que si tu dis,
mais non, mais moi,
on va continuer à compter les morts.
Mais c'est pas question de compter les morts. C'est question qu'une démocratie, ça se mesure aussi à sa justice, ça se mesure aussi à la confiance dans le peuple, et la plus grande confiance dans le peuple que l'on peut avoir, c'est le fait de nommer des jurys.
Oui, mais là, le baromètre de confiance du peuple dans la justice, il est bas.
Non, mais je peux répondre. Je voudrais répondre. Si on prend la théorie de Jean-Loup, qui est dans la sanction. Moi, j'ai une autre théorie, c'est on marche sur deux jambes. Moi, je suis pour la prévention et pour la sanction.
Mais je suis d'accord. Je suis 100% d'accord.
Sauf que nous, pourquoi je m'indigne? Parce qu'en fait, comme nous connaissons super bien la société et des gens comme moi en particulier qui sommes au plus proche des jeunes et que nous les connaissons mieux que personne et que nous connaissons tout le processus qui fait qu'un jour, un jeune passe à l'acte, nous, ce qu'on déplore, c'est quoi? C'est que l'État, en tout cas la société, est spectatrice de ces violences qui montent.
Mais il n'y a pas de désaccord.
Non, mais oui, sauf que toi, tu considères que, en fait, en demandant et en exigeant que justement on ait une forme d'État qui s'occupe de cette prévention, on ne penserait pas aux victimes. Ce qui est totalement faux. Alors, on voudrait qu'il n'y ait plus de victimes.
Non, mais
on voudrait qu'il n'y en ait plus.
Je suis d'accord.
Or, toi...
Je suis d'accord.
Vas-y,
mais en fait, on ne parle pas des mêmes. C'est-à-dire que quand il y a de petits actes de délinquance, je suis exactement, comme le dit Zora, marcher sur ses deux jambes. D'un côté, la répression et la sanction. De l'autre, l'éducation et donner les moyens, justement, de la réponse éducative. Mais quand on en arrive à un meurtre, comme pour Jawad qui avait tué son camarade, comme pour le meurtre de Viry Châtillon, je pense que là, on n'en est plus dans l'éducatif et qu'il faut envisager des peines très lourdes et très longues, sans dimension éducative.
Ce qu'on est en train de t'expliquer, c'est que les mineurs, aujourd'hui, de plus en plus jeunes, qui sont topés à chaque fois pour des actes de violence, je tape mon voisin, je tape mon copain, etc. Dès l'instant où on détecte cette violence, dès l'instant où on la voit, dès l'instant où les acteurs sociaux et locaux et d'éducation le voient, il faut que les mesures soient prises tout de suite.
Mais je suis d'accord.
Oui, sauf que c'est pas le cas. Sauf qu'aujourd'hui, on est sur le. À chaque fois.
Mais c'est quoi les mesures éducatives? Parce que justement, c'est ça le problème. C'est aujourd'hui dans cette impunité, et on l'a entendu, on l'a vu à travers les témoignages de policiers sur les affaires, notamment des violences urbaines l'année dernière, ou de ceux qui sont un peu impliqués dans le trafic de drogue sans pour autant être dans les règlements de compte. Ils disent aujourd'hui, finalement, parce qu'il y a pas de place en prison, il y a pas de place dans les centres éducatifs fermés. Ils le savent. On leur dit, les gars, vous en faites pas. De toute façon, vous allez vous faire engueuler par la police. Vous allez passer devant un magistrat. On va donner du travail. On va vous donner des sanctions au travail éducatif ou autre.
Il y a plus
ou des
de
tiges,
lieu.
Travail d'intérêt général.
À part l'école.
Donc c'est pour ça qu'ils
à part l'école,
il y a cette impunité.
À part l'école, à qui on demande tout. Il y a plus l'écolo. Il y a plus l'armée. Il y a plus les lieux collectifs de vie où à 8, 9, 10 ans, on pouvait réajuster un peu l'éducation. On venait en relais. Moi, j'ai connu une époque où on allait même au catéchisme. C'était le patronage.
Enfin, aujourd'hui, quand tu retrouves à faire dans les violences urbaines à 12 ans, derrière, on va pas t'envoyer au catéchisme.
Non, mais parce que t'as pas compris, c'est que nous, à l'époque, on avait des lieux.
C'était en amont, c'était avant.
Voilà, en amont, avant, on avait des lieux.
Mais sauf que là, aujourd'hui, c'est de la sanction dont on parle.
Mais les mômes, aujourd'hui, dès qu'ils sont au collège, ils vont plus au centre aéré. Ils font quoi tout le mercredi, toute la journée?
Ils vont plus au collège, surtout.
Oui, en plus. Donc, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que l'éducation, t'es ou à l'école, ou au centre aéré, ou en colo, t'es quelque part. Sauf que les parents travaillent, les mômes sont livrés à eux-mêmes, sans compter les écrans, et j'en passe et des meilleurs. Donc, ce que je veux dire, c'est que, si on considère que la prévention, ça permet justement d'éviter que des jeunes finissent par être tueurs, complètement cinglés, à plus avoir de règles et de dire je défonce quelqu'un, mais finalement il va pas mourir, mais finalement
il
meurt.
Je vous rappelle,
mais on est chez les dingues.
Je vous rappelle et ça rejoindra.
Donc qu'est-ce que tu fais avant ?
Attention, c'est fini. Juste, je vous rappelle et ça rejoindra un peu le débat qu'on aura tout à l'heure rapidement relatif aux propositions de Attal. Je vous rappelle la misère de la pédopsychiatrie en France.
Ah bah oui.
Je veux dire, tu as beaucoup de jeunes qui ont des problèmes. psychiques,
oui,
qui sont violents par problèmes psychiques et qui ne trouvent absolument aucun centre pour les prendre en charge, aucun suivi médical, etc.
Il n'y a pas de place.
Donc je veux dire, c'est notre société qui est devenue complètement déstabilisée parce qu'elle n'est même plus capable de s'occuper de ses plus fragiles. Et ça, c'est gravissime.
Violence, faut-il en finir avec l'excuse de minorité? Vous avez entendu notre débat, nos échanges avec l'avocat, avec Nicolas. On va regarder, c'est 94% de oui. Il faut en finir avec l'excuse de minorité. 94% de oui. Donc c'est plutôt la tendance Jean-Loup Bonamy qui l'a emporté.
Oui, même si ce n'est pas suffisant, et je suis tout à fait d'accord, et à soi seul, ça ne suffira pas.
Dans un instant, on s'en fout pas, la scène dans un état alarmant, le policier Mathieu Vallée qui rejoint le Rassemblement National pour les Européennes, et puis ne plus passer par son généraliste pour aller chez le spécialiste, est-ce qu'on s'en fout ou pas? À tout de suite.
RMC, 9h30, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. 3 GG avec vous aujourd'hui pour discuter au 32-16 hors habitants, cadre de la fonction publique, le médecin généraliste Jérôme Marty, Jean-Loup Bonamy, professeur de philosophie. Si vous avez envie de vous détendre, si vous avez envie d'aller dans un parc d'attractions à sensations fortes, on a ce qu'il faut sur RMC dans les grandes gueules. On a l'Europa Park, élu 8 fois meilleur parc de loisirs au monde. Qu'est-ce qu'on vous fait gagner? On vous fait gagner un séjour de 2 jours pour 4 personnes. 2 jours de sensations fortes, 100 attractions, 13 grands 8. Plus le parc aquatique Europa Park Rulantica. Donc pour gagner, vous m'envoyez RMC par SMS au 732-16. RMC par SMS au 732-16, c'est maintenant. Allez-y, faites-vous plaisir. Le gagnant sera tiré au sort et sera avec nous en direct tout à l'heure à 11h20.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs.
Bonjour les GG, bonjour à tous. À 3 mois des Jeux Olympiques, les eaux de la Seine sont dans un état alarmant, les GG. C'est l'ONG Surfrider Foundation qui tire la sonnette d'alarme. Est-ce qu'on s'en fout ou pas? Jérôme?
Non, on s'en fout pas.
Zora?
Moi, honnêtement, je m'en fiche.
Ah bon? Jean-Loup?
On ne s'en fout pas.
Bon, sur 14 mesures effectuées dans la Seine, 13 se révèlent largement au-dessus des seuils recommandés pour la baignade. Des eaux prélevées sous le pont Alexandre III et sous le pont de l'Alma, lieu des futures épreuves de natation cet été. Et il n'y a pas de plan B. Écoutez ce qu'en disait ce matin justement Marc Guillaume, le préfet de la région Île-de-France, invité d'Apolline Matin sur RMC.
Nous ne sommes pas en période de baignade et donc les mesures qui s'appliquent en période de baignade ne sont pas en train de s'appliquer aujourd'hui. Les unités de désinfection des deux usines de traitement en amont de la Seine, elles ne sont pas en fonctionnement aujourd'hui, ces unités, pour éliminer les bactéries. Deuxièmement, il ne nous a pas échappé que le premier trimestre avait été un trimestre très pluvieux, le double de l'année dernière, 250 millilitres. Tout ceci contribue à la pollution de la Seine dans des conditions qui ne sont pas celles de l'été. On peut sûrement faire des tests en ce moment, mais il ne faut pas dire que ce sont des tests pour la baignade puisque nous ne sommes pas en période de baignade et que donc ces conditions ne sont pas réunis actuellement.
Bon, bah, ça va alors. Ce sera le moment venu qu'on fera les tests. Juste
Docteur
avant.
Marty.
Non, mais si tu veux, l'impréparation de ces Jeux Olympiques est d'une hauteur stratosphérique, quoi. Bon. On vient d'avoir quelqu'un qui nous dit quand même que là, il a beaucoup plu et que comme il a beaucoup plu, vraiment, c'est normal qu'on trouve. Parce qu'en été, il n'y a jamais d'orage, si tu veux. En été, il n'y a jamais d'orage dantesque où tout d'un coup, tu as justement une pluie terrible sur quelques heures et une pollution donc dans l'heure qui suit qui va être immense. Et puis surtout, il n'y a pas de plan B, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce gouvernement qui ne fait pas de plan B? Enfin, je veux dire, c'est une folie. Donc s'il pleut beaucoup, on va annuler les épreuves, on va
quoi faire? Il y a un centre de dépollution des eaux qui n'est pas encore en service et qui le sera d'ici cet été, hein.
Oui, non, mais le centre de dépollution des eaux, on aimerait bien qu'il soit en service précisément pour voir si ça fonctionne.
Bah surtout qu'ils ont reporté les...
Qu'on fasse des tests.
Bah
que ça fonctionne et qu'on teste à ce moment-là.
Jean-Loup.
Tu veux, c'est...
Oui, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Jérôme. Et voilà, honnêtement, bon, d'un autre côté, ça m'attriste, mais j'en ai pris mon parti avec stoïcisme. Et voilà, maintenant, je regarde le fiasco des Jeux Olympiques 2024 de la France macronienne.
Chronique de
se
France, quoi,
dérouler non, sous nos yeux en savourant un jus de pomme bien frais. Voilà, j'ai d'ailleurs vu que Les policiers de la DGSI avaient encore rencontré le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour lui dire « Attention, la cérémonie d'ouverture, en termes de sécurité, ça va être extrêmement dangereux, il faut annuler, il faut un plan B. » Je n'entends plus que ce mot de plan B partout. Or, apparemment, il n'y a pas de plan B. Donc, voilà, je pense qu'il va falloir fuir très loin de Paris cet été. Et simplement, en tant que Français, je suis un peu triste de voir mon pays se faire humilier ainsi. Mais bon.
Ah oui, c'était
déjà l'humiliation en tendance.
Et
si ça se passe très bien, tu présenteras tes excuses.
Je ne présenterai pas mes excuses parce que le pays dysfonctionne de partout par ailleurs. Mais simplement, pour les gens qui nous regardent à la télévision, on voit la mascotte des Friges. Je te rappelle que ces sympathiques mascottes qui évoquent un bonnet phrygien sont en réalité, et ça c'est bien dommage, fabriquées en Chine parce qu'on n'avait pas les moyens industriels d'en produire en nombre suffisant pour les JO 2024. Donc elles sont d'ailleurs peut-être au pays des droits de l'homme produite par des prisonniers ouïghours. Voilà, c'est fort possible. Hein.
On enchaîne.
En tout cas, en Chine.
Les GG. Après...
Oh, les émissions avec Jean-Loup Benhamy.
Après...
Mais c'est vrai. Oui, le problème, c'est que c'est le réel.
On enchaîne.
Après l'ancien patron de Frontex et Malika Sorel, la nouvelle prise de guerre politique du Rassemblement National, c'est le policier médiatique Mathieu Vallet, l'ancien porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, qui rejoint la liste de Jordan Bardella aux européennes. Un flic au RN, est-ce qu'on s'en fout ou pas, Zora?
On s'en fout pas.
Jérôme?
Non, on s'en fout pas.
Jean-Loup?
On s'en fout pas.
Zora?
Pourquoi je suis pas surprise? Déjà.
Curieux.
Je pense que l'exode vers le RN, elle a pour chacun individuellement une raison. Il n'y a pas vraiment de raison collective, si ce n'est de s'en servir comme parapluie. Il se trouve que on a une société qui a perdu un certain nombre de repères et qui est en mal d'ordre de sécurité, et que finalement ces gens s'imaginent que le RN va être la réponse. Voilà, on est en démocratie, qu'ils y aillent. On en reparle un peu plus tard, mais je suis pas étonné.
Les policiers en fonction n'ont pas à rentrer.
Il s'est mis en disponibilité.
Ouais, mais il était en fonction au moment où il a pris sa décision. Donc, si tu veux, il y a des professions, les militaires, c'est pareil. Il y a des professions qui n'ont pas à s'engager. Non, je suis désolé, quoi. Non, parce que c'est trop lourd de conséquences. C'est trop lourd de conséquences pour la profession qu'ils engagent. C'est trop lourd de conséquences pour les gens qui regardent la police. C'est trop lourd pour l'exploitation qui peut en être faite, etc., etc. On est dans un climat qui est un climat de violence perpétuelle. On a ce climat de violence dans pas mal de banlieues, etc. Le fait d'aller donner un marqueur de la police à l'extrême droite, c'est dangereux, quoi. C'est dangereux. Donc, je veux dire, la sagesse, c'est quand tu es policier, ben, t'es policier, quoi. Donc, tu vas pas t'engager dans un parti politique. Même si tu as des idées politiques, tu les laisses au vestiaire quand tu enfiles ton costume de policier. C'est comme ça. Moi, ça me choque.
Jean-Loup.
Non, bah, on s'en fout pas. C'est, disons, sur le plan stratégique, c'est une étape de plus dans la normalisation du Rassemblement National, puisque, voilà, il était commissaire, c'est quand même un grade élevé. Et tu l'as dit toi-même, tu rajoutes ça à Malika Sorel, tu rajoutes ça à l'ancien patron de Frontex, etc., etc. Disons, dans vraiment la normalisation du RN, c'est, voilà, ça représente.
Vous dites la normalisation du RN, ça démontre surtout aux Français que trois personnes, un qui était dans la police, une qui était au Conseil à l'intégration, un troisième qui était dans l'outil frontalier européen.
Bah, ils ont vu tous les trois qu'il y avait des problèmes. Quand voilà. Lui, il a vu qu'il y avait des problèmes de sécurité.
Selon eux, que ça dysfonctionnait.
Malika Sorel, elle a vu qu'il y a des problèmes d'intégration et de laïcité.
Les autres, je le vois pas.
Et le patron de Frontex, bah,
ouais, il le voit, il le règle pas.
Il y a des questions de carrière aussi. Non, mais vous êtes
rigolo. Non, mais je suis d'accord. Je l'ai dit au moment où on avait parlé. Bien sûr.
Il y a aussi, où est-ce que tu as plus de chance?
Parce que c'est l'échec des autres.
Bien sûr.
C'est l'échec des autres.
Oui, mais sauf que c'est quand même gravissime, parce que moi qui ai fait de la politique pendant 20 ans
à gauche.
Et à gauche, et moi qui ai essuyé quand même pas mal de violences en politique et qui a eu pas mal de désaccords en politique, j'ai des convictions et ça me viendrait pas à l'idée, parce que j'ai pas pu accéder pour X raisons à des mandats électoraux, etc., de me dire, bah, finalement au RN en ce moment il y a de la place, j'y vais. Non,
c'est,
mais je partage,
c'est
rien avec ces gens, je m'en fous de ma carrière, c'est pas ma carrière qui compte. Ce qui compte, c'est que je porte. Donc ces gens là moi j'aimerais bien qu'ils nous disent exactement ce qu'ils ont dans le ventre, parce que tu peux pas avoir les convictions de Malika Sorel Sorel, qui a défendu l'intégration, qui a défendu l'assimilation, et je peux être d'accord avec elle sur ce point de vue-là, et de se retrouver dans un parti où on défend le total opposé.
Non,
tu vas chez des gens chez qui c'est mieux, mais, tu vas pas chez des gens chez qui c'est pire. C'est quand même hallucinant. Mais non, mais ça, moi je peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre.
Mais ce qu'a dit Malika Sorel, et on l'a souvent reçu dans les GG, et très récemment en plus à BFM, c'est, elle dit pourquoi l'URN ? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les seuls qui sont conformes à ce qu'il faut faire selon ses convictions. Parce qu'aujourd'hui, elle dit voilà ce qui a raté des autres côtés de l'échiquier politique.
Ça, sur les micro-expériences qu'on a eues de municipalités dirigées par l'URN, est-ce que ces problèmes-là ont été réglés ? Je veux dire, un moment,
s'il n'y a que David Rachine, il a été réélu.
Non, mais il faut toujours accompagner un menteur.
Vous avez un Front National à 31%. Vous avez un Rassemblement National qui se retrouve par deux fois en finale de l'élection présidentielle. Et vous dites, mais non, c'est le diable et c'est les autres. Et les autres, il faut continuer, ils ont les solutions. Mais c'est avec vos raisonnements à la con que ça va arriver à l'Élysée. Mais bien sûr que si.
Je te dirais la même chose. Mais enfin, si Mathieu Vallée s'était engagé chez les LR ou chez tout, je te dirais la même chose.
T'as parlé d'extrême droite.
Pour moi, parce que là, il est d'extrême droite. Mais je t'aurais dit la même chose s'il était au PS. Un policier n'a pas à enfiler une tunique politique, alors qu'il représente, qui plus est, quand t'es à la tête d'un syndicat. Alors tu vas me dire, il s'est mis en disponibilité de son syndicat, etc. Mais en fait, on sait très bien, si tu veux, ce qu'il représente. Et lui aussi le sait. Et s'il y va, c'est précisément parce qu'il a ce poids. Et si on le prend dans un parti, c'est précisément parce qu'il a été à la tête d'un syndicat. Donc je veux dire, à un moment, moi ça ne me viendrait pas à l'idée, si tu veux, d'aller faire la promotion de ma profession dans un parti politique. C'est pas mon rôle. C'est plus choisi.
Alain, tu l'as choisi, mais quand t'es policier,
c'est bien pire que quand t'es médecin.
Mais quand tu t'engages en politique, c'est pour essayer de faire changer les choses. Après, tu peux critiquer le parti qui l'a pris,
ta profession dans des endroits où tu as de la violence, Alain, et tu peux exacerber la violence.
C'est pas parce que la foule est nombreuse qu'elle a raison. Il faut laisser les menteurs aller jusqu'au bout de leurs mensonges. Ils considèrent que le RN va défendre ce que eux ils pensent comme sujet à défendre, comme Malika Sorel, l'intégration, la sécurité pour Mathieu Vallée, etc. On verra, parce que l'argument de l'extrême droite et du RN, c'est quoi ? Nous n'avons jamais été au pouvoir.
C'est ça.
Eh ben allons-y, testons et on verra. On verra si.
On verra.
Mais moi, je suis convaincue que lorsqu'on a des convictions, eh ben, on brade pas ses convictions pour un poste et on brade pas ses convictions en considérant a priori qu'on va régler les questions dans un parti.
Par ailleurs, je ne sais pas si le Rassemblement National peut ou va arriver au pouvoir, mais bon, là, ils vont probablement faire un franchement bon score aux européennes. Et si jamais un jour, en 2027 ou en 2032 ou en 2037, ils arrivaient au pouvoir, ils ont quand même un énorme problème qui est le manque de cadre, le manque de personnalité compétente et expérimentée. Et du coup, s'ils arrivent au pouvoir, c'est quand même pas mal qu'il y ait des gens expérimentés, des commissaires de police, des anciens patrons de Frontex, etc., etc., qui les rejoignent, parce que pour pouvoir gouverner, il faudra quand même des cadres. Or, c'est un parti qui a des électeurs, mais qui n'a pas de cadres compétents. Donc, c'est quand même un peu pas mal qu'il y ait des gens un peu expérimentés qui les rejoignent.
Et là, je rejoins Zora. S'ils font effectivement un gros score aux élections européennes, le lendemain de l'élection européenne, tu vas voir, il y aura une pompe aspirante qui va se mettre en place. Au lendemain de l'élection européenne, c'est l'élection présidentielle qui va commencer tout de suite. Et puis se posera la question de Bardella ou Marine Le Pen, tu verras. Alors là, on peut te le signer tout de suite. Merci, ma chère Anaïs Sens, d'avoir provoqué de belles discussions dans les GG, dans les grandes gueules. Dans un instant, vous allez voir, on a encore matière à discuter. Alors, le prix à l'essence, là, comment ça va ? Le prix à la pompe, le prix de l'essence, comment ça va ?
À l'essence.
Où on en est ? On recommence à aller vers les 2 euros. Il y a déjà des pompes qui affichent les 2 euros. Dans ces cas-là, on fait avec ou on demande un chèque ? 32-16.